soir, présentation ce lundi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé du programme de son gouvernement en vue de son investiture. Ce programme est axé sur 15 piliers regroupés en 4 secteurs. La diversification de l'économie, la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la pauvreté sont parmi les priorités du gouvernement Sama. Par toutes ces actions, le gouvernement Samalou Kondé dit s'engager à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Que pensez-vous de ce programme? Suffira-t-il à répondre convenablement aux préoccupations de la population? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 26 avril 2021. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique, professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Fabrice Ngabo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Alain Parfait Ngoulungou, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Il est aussi secrétaire exécutif de l'Association congolaise des sciences politiques. Alain Parfait Ngoulungou, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux auditeurs de Radio Kapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Henri Kaboué, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le programme est appréciable car ceci englobe presque tous les secteurs les plus essentiels pour que notre pays soit développé. Le problème se pose sur la mise en pratique de ce qu'on nous promet. Nous avons entendu tant de projets, d'ailleurs même meilleurs que ça, mais en pratique nous subissons une déception dans la plupart des cas. Salvatore Salum, nous attendons la matérialisation de son programme et nous souhaitons bonne chance à lui et à son gouvernement. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Capi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
C'est ce lundi que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présenté le programme du gouvernement de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale en vue de son investiture. Ce programme est axé sur 15 piliers avec plus de 60 axes prioritaires. La diversification de l'économie, la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la pauvreté sont parmi les priorités. Pour ce qui est de la sécurité, par exemple, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a affirmé que son gouvernement est déterminé à restaurer la sécurité dans la partie est de la RDC. Le chef de l'exécutif annonce que le chef de l'État pourrait décréter l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en conflit. Par toutes ces actions, le gouvernement Samalou Kondé dit s'engager à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Reportage de Blaise Makassi rendu par Jocelyn Poy.
Pour le Premier ministre, la pacification du pays, en particulier à Beni, Butembo en Ituri et dans le nord Katanga, est une urgence nationale. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens requis pour éradiquer tous les groupes armés et mettre fin à cette crise sécuritaire sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, commandant suprême de FARDC. Selon Samalou Kondé, dans cette optique, aucune option ne sera exclue, y compris celle de la proclamation par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et conflits armés, avec comme conséquence, précise-t-il, notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Samalou Kondé promet une évaluation de l'action de la MONUSCO avec les conseils de sécurité et affirme avoir entendu la frustration de la population. Les gouvernements s'engagent aussi à améliorer les conditions de vie et de travail de beaucoup des catégories professionnelles, notamment des militaires, des politiques, magistrats, agents de l'État, et évoquent la réforme du système de retraite et de sécurité sociale.
Merci Jocelyn Poyi, professeur d'Addis Saleh. Vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Construire un État fort, prospère et solidaire entre 2021 et 2023, c'est le titre de ce programme que le Premier ministre Samalou Kondé a présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un programme de 64 pages qui s'appuie sur 15 piliers et 62 axes déclinés en actions à mener. Commençons par l'aspect sécuritaire, professeur d'Addis Saleh. Le gouvernement affirme être déterminé à restaurer la sécurité dans la partie est du pays. C'est une urgence nationale pour le gouvernement Samalou Kondé. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme, professeur, sur le plan sécuritaire?
Oui, je pense qu'on félicite déjà la présentation de ce programme, on félicite le gouvernement, et le programme semble être clair, le programme est ambitieux, surtout en mettant, comme tous les Congolais le veulent bien, la sécurité ainsi que tous les autres points. Donc en soi, je pense, comme un auditeur l'a si bien dit, théoriquement le programme est bon, mais la question se posera du côté de la praticabilité. Mais déjà, si nous devons rester des analyses très simples, si on dit on veut un État fort, n'est-ce pas? Moi, je prends ce point-là comme étant le pilier central, n'est-ce pas, du programme du Premier ministre Samalou Kondé. Un État fort. Mais on doit comprendre que un État fort, ça ne doit pas être à court terme. Le peuple a besoin d'un État fort et le développement a besoin d'un État fort à court, moyen et long terme. C'est-à-dire, effectivement, que le gouvernement Samalou Kondé, j'espère qu'ils vont arriver à le faire, il faudra qu'ils touchent plutôt la structure de la direction, ça va, de la nation. C'est-à-dire, effectivement, la république, la gestion de la cité. Et là, nous parlons plus de la structure politique de la République. Alors, je me pose des questions. Est-ce que le gouvernement Samalou Kondé va arriver à toucher la structure politique de la République démocratique du Congo? Par exemple, nous avons une structure politique à prédominance des autorités morales où nous avons des hommes forts et nous n'avons pas de systèmes et de structures fortes. C'est une bonne déclaration, mais est-ce que les mécanismes vont être mis en place pour avoir des structures fortes plutôt, pour arriver à avoir un État fort qui respectera les textes et non un individu qui qu'il soit, même pas le président de la République, ne doit pas être au-dessus de la Constitution, donc ce qui est constitutionnel, on devrait plus se poser des questions. Ça, c'est le premier angle. Rapidement, le deuxième angle, c'est le grand pilier de la sécurité. Oui, déclarer l'état d'urgence, c'est bien. Mais tant que, pour moi, nous n'avons pas, par exemple, une loi pour cadrer cet état d'urgence et donner tous les moyens possibles au chef de l'État, l'état d'urgence risque d'être une sorte de faux client pour la République et amener encore plus de désordre. C'est-à-dire que tout le monde devait être impliqué et non seulement le président de la République, ce qui fait que le Parlement, une loi serait une urgence pour arriver à la volonté, effectivement, du programme de Samalou Kondé et du chef de l'État. Ce ne sont pas eux les seuls responsables des piliers qu'ils donnent. C'est toute la population et toute la nation, eux sont que les travailleurs. Donc ils doivent consulter la population et pour arriver à trouver des solutions solides à cette situation qui est catastrophique. Mais jusque-là, malheureusement, je pense que ce n'est pas les programmes comme présentés qui peuvent résoudre cette question.
Alors, le chef de l'exécutif a annoncé que le chef de l'État pourrait décréter l'état d'urgence dans toutes les zones en conflit. Le Premier ministre a précisé que cet état d'urgence pourrait avoir comme conséquence notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones en conflit. Vous pensez que c'est la meilleure option pour enfin retrouver la paix dans ces zones qui connaissent des conflits armés depuis très longtemps?
Non, je ne pense pas qu'il n'y a pas une loi spéciale et qu'on décrète l'état d'urgence dans la situation actuelle où, comme je vous ai dit, apparemment les hommes sont plus forts que les cultures, je ne pense pas, ça fait oui, je suis d'accord, mais je ne pense pas que ça puisse nous ramener des bonnes solutions, à part renforcer encore une fois, peut-être que des gens qu'on ne veut même pas voir, n'est-ce pas, et les systèmes qu'on ne veut même pas voir. Par exemple, on dit qu'il y a trop d'infiltrés dans notre armée, il y a des gens, bon, ce sont des cas isolés peut-être, mais il y a trop d'infiltrés et qu'il y a une perte de la population envers l'armée. Donc, sous l'état actuel, faire un état d'urgence où l'administration civile pourra être remplacée par l'administration militaire, je pense que ben, ça ne va pas ramener la confiance entre la population et les mêmes militaires. Donc, il nous faut une loi spéciale qui peut cadrer cela pour que tout le monde puisse s'impliquer pour éradiquer la paix. C'est une question tellement stratégique, je comprends, pour cette question de paix. Les gens ont besoin de se sentir en sécurité, mais les lois actuelles ne mettent pas la population dans la sécurité, c'est-à-dire que le gouvernement et les militaires se battent vraiment pour nous. Il y a trop de doutes, ce qui fait qu'il faut dissiper ces doutes-là pour que tout le monde puisse se mettre à se battre contre toutes les violences qui se font à l'intérieur des pays.
Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances. Fabrice Ngabo, vous avez suivi, j'imagine comme tout le monde, la présentation du programme du gouvernement Sama Lukonde. Votre bref commentaire sur la proposition Sama Lukonde pour la paix dans l'Est de la RDC.
Je vous remercie de m'avoir associé à ce débat. Je salue également tous les co-débatteurs réunis autour de ces sujets ce soir. Si nous entrons dans une considération sémantique du concept programme, moi je ne suis pas d'accord que ce que nous avons suivi, la communication de son Excellence Monsieur le Premier ministre que nous avons suivi cet après-midi, est un programme. Parce que, par définition simple, il faudrait que les auditeurs qui nous suivent le comprennent, un programme, de façon simple, c'est tout simplement une planification des activités à mener. Or, qui dit planification dit des objectifs qui sont chiffrés. Qui dit planification dit des stratégies. Qui dit planification pour programme dit moyens. Alors, dans cette communication que nous avons suivie tous, que moi j'appelle plutôt un discours littéraire, un discours politique et littéraire, vous avez suivi ensemble avec nous, madame, que cette communication, là où ce document de 64 pages, n'a rien de programme. Vous n'avez pas suivi, c'est autant d'éléments que je reproche avant directement de passer à la question sécuritaire, vous n'avez pas suivi des critères de performance dans ce document. Vous n'avez pas suivi des IOV d'indicateurs objectivement vérifiables. Vous n'avez pas suivi de chronogrammes, aucun tableau, aucun chiffre, un nombre excessif d'actions littéraires à mener qui frise par ailleurs l'irréalisme total du programme. Et donc moi j'estime que les mêmes erreurs du passé sont en train de nous rattraper. Si l'équipe gouvernementale passée a échoué, vous allez vous rappeler que nous avions organisé une émission pareille où nous avions fustigé, n'est-ce pas, le manque de cohérence dans l'élaboration du programme. Alors, c'est pratiquement la même chose dans laquelle nous retombons aujourd'hui. Et donc, que les gens ne soient pas surpris ou la population ne soit pas surprise demain, lorsque nous allons retomber dans les mêmes échecs. Parce que quand on n'a pas un programme bien élaboré, un programme cohérent, il est clair qu'on va tâtonner ou on ne va pas résoudre le problème. Maintenant, je vais sur le plan sécuritaire. Depuis pratiquement quelques années, cette partie du pays traverse une situation sans nom. Vous avez une population qui est tuée à la machette pendant que nous avons une armée et nous avons la présence de la mission onusienne qui d'ailleurs devrait sécuriser la population, mais la population est tout simplement abandonnée. Je crois qu'à un certain moment, on doit se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, comprendre les problèmes de l'armée, c'est quoi. Et si nous faisons une analyse assez objective et profonde, nous allons comprendre que le problème de l'armée n'a rien à voir avec tout ce qui a été évoqué par ailleurs par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et ce problème se résume en trois éléments suivants. D'abord, les problèmes de sous-équipement. De deux, les problèmes de sous-rémunération. Et de trois, l'absence d'une organisation susceptible de bouter de haut, de mettre à côté tout ce qu'il y a comme les marionnettes des puissances étrangères qui veulent maintenir le pays dans une situation de non-état. Et donc moi je pense que tous ces éléments, ce que je viens d'évoquer, nécessitent qu'il y ait des moyens. Alors, est-ce ce programme, par ailleurs, sans moyens, sera-t-il mis en œuvre?
Mais dans ce programme, Fabrice Ngabo, le Premier ministre a annoncé que quelques mesures sont prévues pour améliorer les recettes du pays, notamment l'unification des régies financières.
Vous me suivez, madame? Il annonce un chiffre de 36 milliards de l'armée. Écoutez, madame, nous vivons dans ce pays. L'année passée, il était prévu un budget de 11 milliards. Ce budget a été mobilisé à concurrence de 3,7 milliards, madame, avec une capacité très faible de mobilisation. Sans des actions claires en termes de réformes fiscales structurelles pour travailler sur le système fiscal congolais, comment pensez-vous qu'on peut arriver à ces résultats? Vous savez, si les États-Unis aujourd'hui allouent 117 milliards de dollars américains à la défense, à l'armée, à leur armée, c'est parce que cet argent est trouvé où? Dans le système fiscal. Monsieur le Premier ministre nous parle de financement innovant. Mais écoutez, toutes les grandes puissances de ce monde, où est-ce qu'ils trouvent les moyens? C'est dans le système fiscal classique, madame. Je crois qu'il n'est pas temps de vouloir inventer la roue. La roue, elle existe déjà. Nous avons un système fiscal qu'il faut réformer, sur lequel il faut travailler. Les entreprises sont là. Elles sont comptables au bout du doigt. Celles qui sont répertoriées par l'administration fiscale et les autres évoluent dans l'informel. Moi, je crois qu'à un certain moment, nous devons nous rendre compte de l'importance de l'intervention de l'État, pour laquelle je crois qu'il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilités.
Alain Parfait Ngulungu, chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi secrétaire exécutif de l'Association congolaise de sciences politiques. Alain Parfait, qu'est-ce que vous pensez du programme du Premier ministre Sama Lukonde, du gouvernement Sama Lukonde, je voulais dire?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je voudrais, avant de commencer, de saluer tous les co-débatteurs avec lesquels nous allons échanger tout à l'heure, et ainsi que tous fidèles auditeurs. D'emblée, ce que je vais dire, que la programmation, si vous voulez, d'une politique gouvernementale, évidemment, c'est un gouvernement issu, comme on le sait, de l'Union sacrée pour la nation, qui est la conséquence de l'éclatement de l'ancienne majorité parlementaire, et que cette nouvelle coalition gouvernementale doit absolument porter sur les fonds baptismaux toutes les aspirations populaires telles qu'attendues à l'issue de toutes ces manœuvres politiciennes. Alors, tel que présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le programme du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde entrevoit déjà de fond en comble justement des grandes idées, des choses déjà entendues lors des présentations des programmes gouvernementaux, mais qui en réalité apparaissent comme des machines à gaz qui n'ont rien produit durant des années à RDC. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si vous parcourez ces programmes présentés aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est une litanie des bonnes intentions répétées par les autres gouvernements, ressassées par les gouvernements précédents. Et donc ce sont les mêmes choses sur lesquelles on revient. Et comme l'a dit un de mes co-débatteurs ici, le gouvernement, ou soit la classe politique en RDC, nous donne justement, non pas seulement des leçons, des discursivités politiciennes, mais aussi des promesses qui n'ont absolument, qui ne font plus confiance à la population. Je le dis parce que si vous lisez de manière assez rapide ces programmes du gouvernement, vous verrez que ce sont les mêmes actions répétées, les mêmes actions ressassées et qui ont été présentées déjà par les autres gouvernements.
Le Premier ministre lui-même l'a dit que son gouvernement s'inscrit dans la continuité du précédent programme du gouvernement.
Bien sûr, mais ce que la population veut, c'est l'innovation. La population veut qu'on trouve des solutions aux problèmes réels, à leurs aspirations profondes, aux désidérata que posent les fonctionnaires, les militaires. Ils ont des sérieux problèmes en termes de paye, en termes de conditions de travail qu'il faut absolument améliorer, sans compter les problèmes sécuritaires que vous aviez évoqués au début de l'émission. Et donc ce sont là des problèmes réels auxquels on doit donner des réponses rapides. Le programme du gouvernement n'est jamais une litanie de belles intentions. Un programme du gouvernement, c'est un cadre programmatique qui, de manière séquencée, projette les actions futures pour justement mettre en place des politiques publiques qui devront trouver des solutions aux problèmes auxquels les populations font face.
Vous pensez que cette programmation manque dans le programme présenté par le Premier ministre aujourd'hui?
Oui, ça manque une sorte de logique, une coordination de toutes ces actions telles que présentées. L'impression que cela donne, c'est juste une liste de très belles intentions, mais dont on sait consciemment que de 2021 jusqu'à 2023, on ne sera pas matérialisé avec les moyens disponibles. Et donc, le gouvernement devrait nous aider à voir quelques piliers essentiels qui auront un impact, des effets positifs sur la vie sociale et économique du pays.
Professeur Dadi Salé, sur le plan économique et finance, l'action du gouvernement reposera sur l'amélioration de la gouvernance et la diversification de l'économie nationale, a annoncé le Premier ministre Samalou Kondé.
Oui, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, je suis personnellement très content. Parfois, je suis plus à l'aise avec mes chercheurs. Vous sentez que nous avons besoin d'un work plan, hein, comme on a dit, donc c'est vraiment une programmation. Et c'est impossible d'avoir un work plan scientifiquement. Je ne sais pas à quel enfant on veut un universitaire enseigner cela sans qu'il y ait une budgétisation. Une budgétisation nous confirme que non. Voilà, les recettes sortiront de A, B, C, D et les dépenses vont en sortir de là et nous allons équilibrer à la fin. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ça reste un peu comme le prédécesseur, un peu une sorte d'échappée des bonnes intentions. Et malheureusement, nous avons compris que nous ne devrions pas marcher avec des bonnes intentions. Alors, si on prend l'économie, qui est un aspect central de développement effectivement de l'être humain, parce que si vous prenez les cycles économiques, c'est-à-dire que nous devons produire, distribuer, mais pas et consommer. Alors, quelle est la force de production de la République démocratique du Congo? Quelle est la force de distribution? Et quelle est la force de consommation? Et là, nous allons parler même de revenus, effectivement, du peuple congolais. Donc, je pense que, excellence, monsieur le Premier ministre, il devait démontrer, noir sur blanc, par exemple, sur le plan des productions, voilà les effets induits que nous allons avoir par rapport à telle stratégie ou bien tel programme entre guillemets qui va mettre en place. Là, je cite un peu le programme du ministère de l'Industrie, ok, avec des quatre ans économiques, pour que nous puissions être concrets, madame. Mais pas. Ce programme-là, comment est-ce que ça prend en compte l'aspect le peuple d'abord? Comment est-ce que dans la production, le peuple congolais va avoir une valeur ajoutée au maximum? Comment est-ce que nous allons nous retrouver dans ce programme? Je pense malheureusement, c'est là où ce n'est pas précis. Comme le prédécesseur a aussi bien dit, si on reste technique, on va dire, ben, c'est une bonne intention. Ce n'est pas en initiant les régies financières qu'on va y arriver. Ce n'est pas en informatisant la chaîne des recettes qu'on va y arriver. Ce n'est pas en rationalisant les exonérations ou encore la réponse de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes qu'on va y arriver. Donc il nous faut une politique économique cohérente avec la philosophie du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Ça me permet de rentrer sur un aspect important de l'article 91 pour que nous puissions comprendre que la responsabilité à un certain niveau n'est pas seulement du gouvernement. L'article numéro 1, plutôt 91 de la Constitution, dit tout simplement que la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont des domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. C'est-à-dire que nous attendons, parce qu'il faut que chacun puisse jouer son rôle. Sur le plan économique, vous avez suivi les déclarations de M. Yuma. Bah, écoutez, nous avons des contrats léonins. On l'a dit depuis des années, depuis plus de 20 ans, nous faisons que crier. Nous avons des contrats léonins. Nous n'arrivons pas à maintenir la valeur ajoutée et les flux économiques en République démocratique du Congo. Il a prouvé à la face du monde que nous exportons un peu plus de, en termes de quantité de tonnage, mais pas de 1 million, je pense, que 500 000 qu'on faisait avant et la Chicamine prenait plus de 80%. Des dépenses de l'État congolais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'arrive même pas à 15%. Donc, ce sont des mesures plutôt pratiques. Nous ne demandons pas au Premier ministre de rester théorique et trop politique. Il faut que le gouvernement puisse nous faire un work plan. On prend des mesures solides. Donc, moi, ce que je demande, je pense qu'il y a une sorte de manque de vision de grandeur. Il y a une sorte de manque de philosophie gouvernementale. Je veux dire que le peuple d'abord. Il y a une sorte de manque de rupture de l'ancien système. Un de mes co-débatteurs l'a si bien dit, ben, si c'est la continuité. Et pourtant, ce qui s'est passé avant, ben, le président lui-même l'a dit, il a échoué. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une continuité d'une chose qui a totalement échoué selon le président de la République, par ses propres mots? On ne peut plus faire une continuité. Il nous faut une rupture. Mais nous ne sentons pas des ruptures. Il n'y a pas de rupture.
Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances, il faut diversifier l'économie nationale, mais pas seulement compter sur les minerais du pays, mais il faut aussi mettre l'accent sur l'agriculture le chef du gouvernement a même encouragé chaque Congolais à avoir un champ chacun dans son village, ce qui permettrait de booster l'économie du pays.
Effectivement, madame, la diversification de notre économie, c'est un préalable pour atteindre le développement de notre pays pour le bien de la population. Mais je suis quand même très heureux que tous les chercheurs réunis autour de ce sujet soient d'accord avec moi que ce sur quoi nous discutons aujourd'hui, c'est-à-dire la communication, les discours de son excellence sur le Premier ministre dont nous parlons aujourd'hui, n'est pas en réalité un programme. Ça, c'est, ils ont évoqué d'autres éléments qui viennent corroborer cette affirmation. Et je crois que quand nous partons sur cette base-là, nous devons nous attendre à une conséquence. La conséquence logique, c'est que nous allons nous plaindre des mêmes problèmes après une année, après deux ans et après et en 2023, nous allons revenir à ce débat parce que le départ aura été mauvais, c'est-à-dire l'absence de cohérence dans les procédés de gouvernance. Alors, effectivement, il faut diversifier l'économie. Il faut passer par l'agriculture. Il faut valoriser l'agriculture. Il faut valoriser les infrastructures hydro, la potentialité hydroélectrique, voulais-je dire. Et une fois de plus, à ce niveau-là, nous avons suivi son excellence sur le Premier ministre nous dire qu'il est envisagé de mettre en place de nouvelles infrastructures, des micro-hydroélectriques, n'est-ce pas, et prioriser le projet Grand Inga Inga 3. Madame, vous voyez que déjà, dès le début, dans la présentation même des ambitions, il y a une sorte d'étonnement. Vous savez que moi, avant de venir à cette émission, j'ai recensé, de par mes petites recherches, plus de 10 centrales de plus de 140 mégawatts dans ce pays, qui sont tout simplement dans un état d'arrêt. Et d'autres existantes sont fonctionnelles, mais qui fonctionnent à un très faible régime. C'est le cas de centrales Inga Inga 2, qui ont une capacité installée dont ils ne produisent que tout simplement 40%. Et les 60% sont partis dans l'état vétuste d'équipement et dans la ligne de distribution qui est tout simplement vétuste. Et donc, au lieu de penser, de songer à créer des nouvelles infrastructures, il faut d'abord voir quelles sont les infrastructures que nous avons, dans quel état elles se trouvent, est-ce qu'il y a moyen de les relancer. Alors, en rentrant dans cette logique de création de nouvelles initiatives, alors que, comme je disais tantôt, la roue n'est pas à inventer, eh bien, on va trop embrasser, et comme on le dit en français, qui trop embrasse mal les trains, on va se retrouver à la fin de la législature que nous aurons perpétué les mêmes échecs que nous avons connus pendant les deux ans passés du fait de manque d'un programme de gouvernement à cohérent. Et donc, c'est un problème très sérieux, je suis d'avis qu'il faut diversifier l'économie, mais de façon assez rationnelle. Vous avez suivi un deuxième élément. Le Premier ministre nous parlait de la matérialisation de la Caisse nationale de péréquation. Mais madame, le débat sur la retenue de 40% des recettes à caractère national pour faire vivre, faire fonctionner les provinces n'a pas été à l'ordre du jour. Les provinces se plaignent à longueur de journée de manquer les ressources, alors que déjà la Constitution pose un principe de retenue de 40% des recettes à caractère national, c'est-à-dire des efforts de toute la population. 40 fois les être retenus. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Du temps de Kamer à l'Assemblée nationale, on avait créé un concept non constitutionnel de rétrocession pour tout simplement contourner la volonté de la Constitution. Et même en faisant cela, on ne rétrocède rien du tout aux provinces.
Merci.
Il y a des arriérés de rétrocession. Ça fait que les problèmes sont dans un état d'ingouvernabilité et les problèmes d'infrastructure se posent avec beaucoup d'acuité. Il est impossible de penser développer une entité sans infrastructure. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire autrement les choses, de manière à ce que la population qui va attendre le changement, qu'elle vive déjà les signes qui sont convaincants et qui permettent d'attendre. Dans le cas contraire, je pense que nous serons partis de déception en déception et ça n'aura pas été juste pour nous.
Merci Fabrice Ngiabo. Alain Parfait Ngoulungu, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Patrice Mouderwa, depuis Bukavu, dans la province du sud Kivu. Nous saluons la sortie de ce programme gouvernemental longtemps attendu par le peuple congolais. Cependant, nous avons toujours constaté que chaque programme gouvernemental qui sort a toujours été intéressant avec de bons axes stratégiques, à tel point que ça donne de l'impression à la population congolaise qu'il y aura changement. Mais à la longue, nous nous rendons compte que cela n'a pas été réalisé comme nous le souhaitions. Et c'est la faute de la volonté politique du détournement des fonds alloués à ce dernier, de la corruption, de l'absence de la, d'une bonne politique et de sa mise en œuvre et du suivi, mais aussi le faible budget qu'on y a toujours alloué. À mon avis, ce programme ne pourra suffire aux préoccupations de la population congolaise que lorsqu'il y aura des stratégies efficaces pour la mobilisation des fonds ouverts et alloués et la volonté de servir le peuple congolais.
Alain Parfait Ngulungu, que pensez-vous de ce point de vue de Patrice Moudéroua depuis Bukavu? Vous placerez aussi un mot sur l'aspect économique.
Oui, je partage totalement le point de vue de mon compatriote Patrick Moudéroua du fait que le programme politique de son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé apparaît comme une boîte noire. Une boîte noire, pourquoi? Parce que elle ne fait pas montre de manière claire comment ce programme politique qui a été attendu depuis des mois fait ce qu'on peut appeler la rupture avec l'ordre politique passé, c'est-à-dire avec la coalition FCC-CACH. Et donc, si on nous dit ici dans ce programme, on est en train de ressasser les mêmes actions, pratiquement similaires, la même posture politicienne pour justement incarner, si vous voulez, l'action de ces gouvernements, on s'est dit que nous sommes dans une sorte de voyage à l'inconnu que nous sommes en train d'effectuer parce qu'on n'est pas sûr que l'idéal type tel qu'attendu de ces programmes politiques à l'issue de la cassure, si vous voulez, de la dissolution de la coalition tant décriée par la population et qu'on nous ramène encore dans les dans ce qu'on peut appeler justement l'ordre politique de la coalition FCC-CACH, on s'est dit que on prend vraiment un chemin allant vers l'inconnu.
Alors Alain Parfait Ngulungu,
vous notez ceci, madame.
Oui,
que
rapidement.
Partout au monde et sous base des analyses comparatives des programmes politiques, lorsque un gouvernement, en l'instar du gouvernement Samalou Kondé, vient pour présenter un tel, une telle programmation politique, on s'attend à ce que cette programmation politique trouve des solutions aux problèmes récurrents, notamment les problèmes de la population.
La diversification, à l'imparfait.
La priorité, sécurité, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, à ne pas négliger aussi d'autres aspects, notamment liés aux besoins primaires de la population. Est-ce que ces gouvernements, ces programmes politiques, tels que caricaturés, tels que présentés aujourd'hui, avec un langage politique séduisant, est-ce que cela va répondre à l'échéance aux problèmes posés par la population?
Mais la diversification, Alain Parfait, la diversification, par exemple, de l'économie, est-ce que ça ne va pas répondre aux besoins de la population?
Oui, mais là aussi, c'est un problème. Vous savez, madame, l'économie, l'évolution, si vous voulez, économique et financière d'un pays, l'œuvre d'une très bonne réflexion et d'une bonne planification économique, ça ne vient pas de soi, même si vous prononcez, même si vous faites mention d'une très belle intention de procéder à la diversification économique. Et alors là, il faut revenir, comment on va agencer ça, comment on va articuler cette politique-là macroéconomique pour justement arriver à atteindre les objectifs assignés à cette politique de diversification économique. Vous savez que le PIB réel de la RDC s'est contracté depuis 2020 à hauteur, si je ne me trompe pas, de 1,7%. Et malgré qu'on nous promet une sorte d'augmentation dans les années à venir, c'est-à-dire en 2021 et 2022, mais quelle est la politique? Comment on va coordonner cette politique-là macroéconomique pour justement avoir des effets de cette politique de la diversification économique? C'est ça toute la réflexion que l'on doit mener.
Merci.
On ne doit pas seulement présenter des intentions comme ça, sans savoir comment ces intentions-là, comment ces politiques-là vont être coordonnées sur le plan macroéconomique et sur le plan même sectoriel.
Merci Alain Parfait Ngulungu, professeur Dadi Salé. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma.
Félix Tchanga-Tchanga depuis Goma, tout en félicitant le Premier ministre et son équipe pour cette obligation constitutionnelle expérimentée aujourd'hui. Je me demande tout de même combien de temps lui reste-t-il avant 2023 pour réaliser tout ce qu'il a promis. Au niveau social, il ne faut pas se voiler la face que le pays est aujourd'hui déchiré et hanté par le tribalisme. mais je ne vois pas dans ce programme des actions concrètes proposées par le Premier ministre en vue de promouvoir l'unité et la cohésion nationale.
Parlons du social, professeur Saleh Dadi. Le gouvernement décrète la pauvreté comme grande cause nationale. Plusieurs programmes seront mis sur pied pour lutter contre ce fléau en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense tout simplement, en corroborant le mot de l'auditeur, ça va, que effectivement le programme est ambitieux, mais il n'y a pas de mesures pour arriver à ces ambitions. Vous avez parlé de la diversification et de l'aspect macroéconomique, mais il nous faut aussi des aspects d'une politique microéconomique adéquate. Avec une politique contre la pauvreté, il nous faut les deux. Ce qui a toujours manqué, on a parlé depuis l'ancien premier ministre que les gens connaissent, Nato Sampoyo, des aspects macroéconomiques. Moi-même, je suis allé les chercher à Kinshasa pour essayer de dire que les politiques macroéconomiques devaient être accompagnées par des politiques microéconomiques et que sinon les sociales ne devaient pas changer. Malheureusement, si il n'y a pas des politiques microéconomiques basées sur la philosophie du chef de l'État, le peuple d'abord, et ma philosophie du chef de l'État, le statut de prendre en charge, je vous assure, rien ne va changer. Alors, il y a un point que, comme vous dites, il y a un problème des temps. Au fond, nous n'avons pas à faire de la magie. Les programmes sont trop ambitieux, mais il faut les rendre un peu plus fluides. On se concentre sur l'insécurité, on se concentre sur les sociales de la population et la structure politique. Pour les sociales de la population, faisons des choses très simples. Ça va. Excellent, monsieur le Premier ministre, avec la mobilité du budget que nous avons, c'est difficile de faire beaucoup de choses. Mais il faut que la population puisse reprendre confiance. C'est-à-dire, nous demandons au président de la République et à son excellence, par exemple, de diminuer les trains de vie, ça va, des institutions. Il y a des institutions qui font des dépassements de 300%, 400%, 200%, c'est inacceptable. Par exemple, il peut diminuer les salaires de ministres parce que ce sont des guerriers. C'est un gouvernement de guerriers. Les guerriers doivent respecter quand même l'échelle salariale. C'est-à-dire, effectivement, que les militaires doivent être payés, les enseignants doivent être payés. Donc, on ne peut plus continuer à avoir des ministres qui vivent dans l'opulence et des dépenses, des primes impossibles, malheureusement, dans les programmes. On a encore insisté sur le fait qu'on va encore motiver un peu plus le magistrat et d'autres personnalités par des primes, des bourses, etc. Donc, nous sentons qu'effectivement, qu'il n'y a pas une diminution du train de vie des institutions et des instances. C'est le contraire. Alors, comment est-ce qu'on va satisfaire les sociales de la population? Faisons un peu comme Mabouzouli, excusez-moi de les citer. Il arrive au pouvoir, il s'est dit, il avait 15 000 dollars le mois, lui-même a diminué jusqu'à 4 000 dollars. Faisons cela avec le ministre diminue leur salaire, le président de la République, tout le monde, les députés, qui ont dit, bon, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas les députés touchent exactement combien. Jusque là, on ne sait que c'est 4 000, c'est 8 000, c'est 10 000, maintenant c'est impossible de vivre.
En conclusion,
je pense que, ok, on peut accepter ces programmes, même si ce n'est pas vraiment un programme, mais je demande au gouvernement et au président de la République de demander à ce qu'un travail de fond puisse se faire avec des techniciens qui sont là, qui existent, je sais, pas seulement des politiciens, des techniciens qui vont essayer de faire un work plan et répondre au minimum de la population, ce n'est pas dans 2 ans, qui peuvent répondre à tout. Qui ne puisse pas s'embrouiller dans tous les domaines, qui laisse les ministres, les présidents et les premiers ministres, ils peuvent être concentrés sur la sécurité, sur le social de la population et faire une restructuration politique, donc la structure politique jusqu'aux élections.
Merci.
Un peu plus réel.
Merci, professeur Dadi Saleh, Fabrice Ngabo. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Ilebo dans la province du Kasaï.
C'est Farel Malassa depuis Kasaï à Ilebo. Le programme est ambitieux et bien concis, mais le problème reste celui de la matérialisation de ces derniers. J'invite personnellement le nouveau gouvernement à s'impliquer davantage dans la mobilisation des recettes qui pourront l'aider à réaliser ses rêves. Sinon, le gouvernement sera toujours qualifié d'incompétence et de ministre touriste sans aucun sentiment de développement et de la construction d'un État fort comme souhaité. Donc, la réussite est dans la mobilisation des recettes et l'encadrement de ces dernières à celle fin de répondre efficacement aux attentes de la population.
On a parlé déjà de la mobilisation des recettes, Fabrice Ngabo. Sur le plan social, le gouvernement s'engage à améliorer les conditions de vie et de travail de beaucoup de catégories professionnelles, notamment militaires, politiques, magistrats, agents de l'État, et évoque la réforme du système des retraites et de la sécurité sociale. Réaction sur le plan, l'aspect social.
Effectivement, madame, l'auditeur, je pense qu'il nous a rejoint, parce que nous avions dit tantôt qu'il était impossible de développer un pays sans une politique cohérente de mobilisation de recettes. Alors, l'amélioration du quotidien du social de la population a des critères, a des indicateurs, n'est-ce pas? Et il y a des leviers sur lesquels l'État doit s'appuyer, n'est-ce pas, pour arriver à améliorer les vécus quotidiens de la population. Le premier levier, c'est l'efficacité dans les missions régaliennes de l'État. Tout État, avant tout, s'assure d'abord que sur l'étendue du territoire national, il y a la sécurité, il y a la paix. Il est impensable d'améliorer la vie de la population sans une paix, sans sécurité. Et la population qui est à Goma, disons à l'est, dans les Beni, Butembo, Ituri, même au sud Kivu, qui quitte ses champs, qui quitte les champs, quitte les milieux, leur milieu naturel, et va se réfugier dans les milieux urbains à la recherche de la paix, comment cette population, quels que soient les mécanismes politiques qu'on peut installer à Kinshasa, comment cette population peut améliorer sa vie? Et donc, il est difficile. Il faut d'abord, l'amélioration, l'efficacité dans les missions régaliennes de l'État, du point de vue sécuritaire, du point de vue de la justice, mais aussi, madame, un élément très capital. Il faut absolument que le gouvernement priorise certains axes, notamment les infrastructures, où je veux dire...
Vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Pour une population vivant à Kinshasa, par exemple, de voir son coût de vie, n'est-ce pas, réduire, si on ne sait pas acheminer de façon assez, pas trop compliquée, les marchandises ou les produits qui nous viennent du fond, par exemple, du Congo central à Kinshasa. Ce sera difficile parce que les ressources sont souvent dans un état très... délabrement très avancé. Mais deuxième élément, c'est aussi la politique monétaire.
Fabrice Ngabo, je dois essayer de vous résumer et conclure. Et
donc, pour conclure, je note tout simplement que le peuple congolais attendait aujourd'hui la présentation par le gouvernement du programme d'action, mais c'était une occasion en tout cas à rater, mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Je crois que il y a lieu que le gouvernement, en entrant en fonction, il puisse prioriser certains axes pour ne serait-ce que redonner une fois de plus, permettre à la population d'espérer. Dans les cas contraires, je pense que nous allons nous retrouver dans la même situation, et l'histoire va nous juger très mal.
Merci Fabrice Ngabo. Alain Parfait Ngoulungo, votre conclusion.
En conclusion, je dirais que les dards qui ont, par le passé, fait couler la coalition FCC-CACH, risquerait de traîner à la boue en 2023 la politique du peuple d'abord, telle qu'incarnée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour éviter cela, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le gouvernement de la République sous la houlette de Jean-Michel de Samaloukonde doit absolument revoir ses programmes politiques et nous proposer des projets à impact visible, notamment sur les secteurs de la sécurité du social, mais aussi des lettres de mission que doivent signer les membres du gouvernement avec des indicateurs de performance pour nous permettre de les évaluer après une période donnée. Et donc, sur base de cela, nous aurons un cadre programmatique pertinent et qui va nous permettre de commencer, nous, la population, à évaluer l'action gouvernementale.
Merci Alain Parfait Ngoulungo, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba, Martin Sabujangwe qui était à la supervision. Kelinkouté vous a présenté ce magazine. Polydor Basunga était à la mise en onde. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.